vitriol calciné, pierre infernale, régulus antimony, mercure vif argent.
Il y a ici de quoi empoisonner Paris en quelques heures.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. L'affaire des poisons a-t-elle révélé tous ses mystères? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Agnès Walk. Aujourd'hui, deuxième épisode, 1677, l'arrestation de Madeleine de Lagrange. Après la vive émotion suscitée par l'affaire de la Brinvilliers, qui s'est terminée par son exécution en juillet 1676, une véritable psychose d'empoisonnement se répand dans Paris. Des curés de la capitale alertent le lieutenant général de police de Paris, le célèbre Nicolas de la Reynie, qu'un grand nombre de femmes, dans le secret du confessionnal, ont avoué avoir administré des drogues toxiques à leur mari. Dans ce contexte, pour le moins inquiétant, la police se met à surveiller de près les officines d'apothicaires et surtout les baraques où celles que l'on appelle les devineresses ou les tireuses d'horoscope vendent sous le manteau des poudres aux vertus mystérieuses, filtres d'amour, poudres de perlimpinpin, mais peut-être aussi de véritables poisons capables en moins de deux ou au contraire de morlantes de tuer un vieux mari à héritage, si possible sans laisser la moindre trace. L'affaire des poisons proprement dite débute quand Madeleine de Lagrange est embastillée en février 1677.
Je fais jeûner un crapaud, je le trempe dans un mélange qui contient arsenic, puis je le fouette et je recueille sa bave. Tout ce qu'il a bu se retrouve dans le liquide. 10 gouttes de ce produit foudroient un homme et ne laissent aucune trace.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Madeleine de Lagrange est veuve depuis la mort, accidentelle, je précise, de son mari, qui l'a laissée sans le sou. Par chance, elle a depuis quelques années un amant, Maître Faury, riche et plus âgé qu'elle, qui l'entretient. Mais, mauvaise nouvelle, l'avocat décide de prendre sa retraite en province et sans elle. Madeleine monte alors une incroyable machination. À petit feu, elle empoisonne l'avocat et, juste avant sa mort, se présente chez un notaire avec un complice, un curé qui est aussi son amant. Celui-ci se fait passer pour le mourant dont il porte les habits. Il affirme au notaire qu'il veut léguer toute sa fortune à Madeleine que, prétend-il, il vient d'épouser. Pour preuve, il exhibe un certificat de mariage, faux bien sûr, que le curé amant a lui-même fabriqué. Quelques jours plus tard, le vieil avocat meurt d'un mal mystérieux. Mais les véritables héritiers ne tardent pas à soupçonner l'escroquerie et à porter plainte. Madeleine de Lagrange et son complice sont arrêtés. L'affaire, qui aurait pu en rester là, connaît un nouveau rebondissement quand on découvre que Madeleine de Lagrange n'est pas qu'une acheteuse de poison. Elle est elle-même marchande de filtres et devineresse, c'est-à-dire diseuse de bonne aventure. Sa spécialité consiste à révéler à ses clients, inquiets pour leur santé, qu'ils ont été empoisonnés et à leur vendre des antidotes. Pour tenter de retarder son procès, la criminelle prétend avoir connaissance, parmi 1000 autres secrets, de menaces d'empoisonnement sur le roi et le dauphin. Avec à l'appui une mystérieuse lettre qui parle, je cite, « d'une poudre blanche que vous voulez mettre sur la serviette de qui vous savez ». Qui vous savez ne peut que désigner le roi. Peine perdue, Madeleine de Lagrange est condamnée à mort et pendue le 8 février 1679. Mais le soupçon d'un crime contre l'État alerte Nicolas de la Reynie. L'affaire des poisons prendrait-elle une dimension politique, d'autant que d'autres cas d'empoisonneuses émergent quasi au même moment. Un véritable réseau aurait-il gangréné la société? Agnès Walk, avec la Brinvilliers, on avait le cas donc d'une femme criminelle qui utilisait le poison pour tuer quasiment toute sa famille. Avec Madeleine de Lagrange, on a le cas nouveau d'une femme qui fait le commerce de poison. Mais on se rend compte en effet qu'elle n'est pas un cas unique.
Non, il y a beaucoup de devineresses dans Paris, hein, c'est presque exclusivement parisien, et beaucoup de femmes qui disent la bonne aventure. Le cas là est un peu particulier parce que Madame de Lagrange est quand même c'est pas n'importe qui, c'est la femme du receveur des tailles d'Anjou. Donc c'est déjà un milieu un peu bourgeois. Mais sinon, ses consœurs sont moins relevées socialement, et donc c'est des femmes qui essaient de vivre avec ce qu'elles peuvent arriver à trouver, c'est-à-dire dire la bonne aventure, proposer des poudres, des crèmes de beauté, de ce genre de choses, et les vendre aux dames de la bonne société.
Alors, il y a quelques noms qui sont restés dans l'histoire, hein, beaucoup ont été oubliés. Il y a la Vautier, la Trianon, la Chéron, la Chanfrein qui sera pendue, Marie Vigoureux, dite la Vigoureux, oui. Et puis la Bosse, arrêtée en même temps que la précédente. Oui. Elle aurait proclamé lors d'un dîner « Quel beau métier je fais, encore 3 empoisonnements et je me retire fortune faite hein. ». Voilà, c'était une parole malheureuse.
C'était surtout une parole malheureuse parce qu'elle était très imprudente. Elle se vantait dans un dîner où il y avait un avocat sans affaire, Maître Perrin. Et Maître Perrin était un des meilleurs amis du premier commis de l'Araignée, qui s'appelle Desgrais.
Il faut faire attention à ce qu'on dit quand on boit un petit verre.
Voilà, et ce Desgrais, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'affaire des poisons, parce que avant d'être le commis et le premier finalement collaborateur de l'Araignée, il était celui du père de la marquise de Brinvilliers, puisque l'Araignée a succédé au père de la marquise, et donc il connaît l'affaire depuis le début, depuis l'affaire de la marquise, et il a commencé à bien connaître les ramifications de tous ces empoisonneurs, parce que ces dames qui vendent des poisons, qui disent la bonne aventure et qui font toutes sortes de magie blanche ou noire, ne fabriquent pas forcément les poisons. En fait, on a généralement des messieurs derrière qui sont derrière.
Oui, parce qu'on dit toujours que c'est des histoires de femmes, non, mais il y a beaucoup d'hommes en fait.
Il y a énormément
en arrière-plan.
Ouais. Il y a même pas en arrière-plan, à côté, parce que le complice de Lagrange, c'est quand même un prêtre, un curé, voilà. Et en réalité, à côté d'une empoisonneuse, il y a toujours un homme qui est là, soit pour fabriquer le poison, soit pour protéger cette femme dans ses agissements. Et si on revient juste à la marquise de Brinvilliers, eh bien c'est son amant Sainte-Croix qui était celui qui fabriquait les poisons et qui tirait les ficelles de tout ce milieu d'empoisonneurs.
Vous parlez d'un véritable gang.
Oui,
ouais, c'est comme un gang de la drogue.
C'est un gang de drogue. Ils se comportent exactement de la même manière, avec des règlements de compte. Et quand ils sont arrêtés, certains parlent et il y a de la délation, d'autres non. Et tout ça, c'est des choses qui font vraiment penser à des vrais gangsters.
Et ces poisons, de quoi parle-t-on en fait? Comment ils sont fabriqués? Est-ce que c'est vraiment des chimistes qui fabriquent ces poisons?
Oui.
À partir de quoi? De bave de crapaud? C'est vrai ça, ou c'est des légendes?
Je pense que consommer de la bave de crapaud, ça ne doit pas être très très bon non,
pour le goût. Voilà. De là à tuer.
C'est un savoir ancestral. Hein. Les Romains employaient déjà de la ciguë. Donc effectivement, on prélève les substances, soit des plantes, soit des roches, et on arrive donc à faire même d'ailleurs presque de la synthèse de l'arsenic avec un certain nombre de matières, et il commence à devenir très très fort, et je dis c'est même d'ailleurs le préparateur du roi qui est un droguiste qui fait pour la première fois la synthèse de l'arsenic et répand sa pratique partout, et ses cours sont publics, donc n'importe qui peut y aller. Mais le poison est réputé être une arme de femme parce que il n'a pas besoin de force pour donner la mort. Le poison, c'est subtil, ça agit sournoisement, subtilement, et on ne peut généralement pas réellement faire la différence entre quelqu'un qui est mort empoisonné ou quelqu'un qui est mort.
Surtout à l'époque, il n'y a aucune recherche.
Alors, il y a recherche. Hein. Ils font des autopsies. On en fait beaucoup, d'ailleurs, dans cette affaire. Mais ça ne donne jamais rien parce qu'on dit, les tissus sont nécrosés, mais est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est le poison? Enfin, ils n'y arrivent pas.
Dans un article, l'historienne Arlette Lebig dit que le poison est l'arme du dominé, contraint de dissimuler au jour au jour le jour ses rancœurs. Elle dit aussi que au grand siècle, les poisons sont une arme sournoise pour les femmes qui voulaient échapper au mari que la société leur avait imposé.
C'est assez amusant. Alors chacun, échappe à son mari comme il le peut.
Disons que les maris ont peut-être plus de facilité pour prendre une maîtresse que les femmes pour prendre un amant. J'essaye de comprendre ce qu'elle veut dire.
C'est exactement ça. Ou en tout cas, il se passe pas grand-chose pour l'homme, alors que pour la femme, c'est beaucoup plus ennuyeux si son mari la découvre infidèle. Donc c'est effectivement une première chose. Et puis ça dépend aussi des milieux sociaux. On en revient toujours. Quand on est dans une très grande dame et que on peut prendre des amants, on peut s'arranger avec son mari éventuellement.
Merci Agnès Valck. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la création par l'araignée de la Chambre Ardente, une cour d'exception pour instruire et juger les multiples accusés de l'affaire des poisons.